Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag
portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission de Loz Actuali. Nous sommes dans le numéro 5 de cette deuxième saison et nous recevons aujourd'hui Louis Galthié et Laetitia Villon de la médiathèque de Lozère. Et tout d'abord, j'accueille mes deux co-animateurs. Bonjour Caroline.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour Eric, voilà. Et donc, bonjour Louis Galthié, bonjour Laetitia Villon.
Bonjour,
bonjour
à tous.
Alors, au programme aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de la médiathèque départementale de Lozère. Donc, vous nous direz de quoi il s'agit.
Tout à fait.
Et puis, on parlera évidemment de ce qui fait votre actualité ces temps-ci, c'est le mois du film documentaire, donc pour le mois de novembre. Ensuite, il y aura une chronique avec Eric qui nous parlera du temps qui va trop vite, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Ouais.
On poursuivra évidemment l'interview. Vous me retrouverez avec une chronique. On parlera d'une des sorties qui fait le buzz sur, de partout dans tous les médias et qui fait aussi un grand buzz en librairie. On en parlera. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dans vos collections à la médiathèque de Lozère, mais voilà, il sera question d'Astérix. Et puis, on terminera évidemment cette deuxième partie avec le portrait chinois. Vous en avez l'habitude maintenant et il y aura à la fin la revue de presse, puisque comme cette émission est enregistrée, nous n'aurons pas de rubrique hashtag, puisque un petit peu trop décalé dans l'actualité. Voilà, la revue de presse. Alors peut-être on peut faire le tour des hashtags, Eric ?
Moi, je vais revenir sur une étude hautement scientifique.
Aha.
Caroline. Moi, ça sera un hashtag droit de suite. J'aime voilà. Bien ça, vous savez.
Oui. Et pour moi, ça sera un hashtag pain au chocolat.
Chocolatine ou pain au chocolat ?
Sans beurre.
Ah, ouais. Mais ne dévoilons pas le sujet de l'article dont nous parlerons tout à l'heure. Et voilà, c'est parti, juste après ça.
Loz Actuali.
Et voilà, donc première partie, nous recevons donc Louis Galthié, directeur de la bibliothèque départementale de Près, devenue médiathèque départementale de Lozère. Laetitia Villon, chef de service au sein même de cette médiathèque départementale. Alors peut-être dites-nous quelles sont les missions de cette médiathèque départementale et pourquoi elle a changé de nom ? Présentez-nous un petit
Alors,
peu tout ça.
Alors, la médiathèque départementale, désormais, c'est le nom de l'ex-BDP. Bon, il faut revenir peut-être un petit peu en arrière. Avant, tout ce qui était dessert en matière de lecture publique dépendait de l'État. C'était ce qu'on appelait à l'époque les bibliothèques centrales de Près. Puis la décentralisation par un texte de 83 qui s'est vraiment mis en place en 86... On est donc les BCP sont devenus les bibliothèques départementales et ça a été une compétence donc du département. Et puis il y a une ordonnance récente de mars 2017 qui prévoit que ce qu'on appelait avant bibliothèque départementale de Près ne devienne maintenant que bibliothèque départementale ou médiathèque départementale. Pourquoi cela ? Très simplement parce qu'aujourd'hui l'activité de prêt, c'est-à-dire le prêt de livres, de documents auprès des publics, n'est plus l'activité principale des bibliothèques. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autres choses, style par exemple la formation à destination des bibliothécaires, mais également en direction des publics, l'animation avec différentes opérations que nous menons, notamment en Lozère, et puis aussi tous ceux qui touchent l'ingénierie, c'est-à-dire l'aide apportée aux différents partenaires communaux ou intercommunaux pour mettre en place des bibliothèques. Donc le Depré est tombé et nous sommes devenus depuis peu donc, la médiathèque départementale de Lozère.
Médiathèque, ça élargit aussi le champ des compétences, j'imagine, puisqu'une bibliothèque, on pense livre, médiathèque, on pense plein d'autres choses.
Eh bien, vous pensez donc effectivement à raison, et donc on va avoir des CD, des DVD, et puis peut-être bientôt du numérique. Donc voilà, ce qui explique effectivement qu'on a choisi le terme de médiathèque.
Alors numérique, c'est-à-dire du téléchargement possible.
Alors... Nous travaillons en plein en ce moment dessus. L'idée effectivement, c'est d'avoir à terme des ressources numériques que l'on puisse diffuser auprès du public.
Oui, via notre portail qui, pour l'instant, est le portail de la médiathèque départementale, qui devrait devenir le portail des médiathèques de Lozère, donc qui comprendra toutes les bibliothèques du réseau, donc avec un onglet ressources numériques où tous les citoyens pourront avoir accès à différentes ressources comme la musique, la VOD, l'auto-formation, etc.
Donc ça, c'est pour le futur.
Le futur, oui. Voilà.
Un futur proche ?
Je pense qu'il est relativement proche.
Oui, hein, ça va vite, ces choses-là. Un petit mot sur le réseau, là. Vous évoquiez le réseau des bibliothèques et des médiathèques de Lozère. Un petit mot sur ce réseau ?
Oui, c'est vrai que quand on parle bibliothèque ou médiathèque départementale, on a toujours l'impression que ce sont quelques personnes qui se trouvent 2 bis rue des Écoles à Mende. En réalité, quand on parle bibliothèque ou médiathèque, c'est tout le réseau. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui... plusieurs bibliothèques municipales ou intercommunales qui font partie de ce réseau. Et donc, en termes de personnes qui sont mobilisées, on est plutôt près des 160 que des 10 qui se trouvent à Mende. Il faut savoir aussi que dans ce réseau, il y a aussi les écoles que l'on dessert, des collèges, des maisons de retraite, des crèches. Donc, c'est tout ce qui fait le réseau, y compris jusqu'à la maison d'arrêt.
Et comment vous desservez ce réseau, justement ?
Alors, aujourd'hui, on
a l'habitude de voir passer ce grand
voilà,
bus.
Voilà, vous voyez passer, nous avons 2 bibliobus qui donc font des tournées, à raison à peu près de 4 tournées par an, et qui desservent l'ensemble de nos bibliothèques, quel que soit leur niveau, puisqu'il y a 5 niveaux de bibliothèques. Donc, on dessert effectivement ces bibliothèques, et on dessert également ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les écoles, les maisons de retraite, les crèches, voilà.
4 tournées par an, ça veut dire que vous faites 4 fois le tour complet de la Lozère, c'est ça ?
Oui, en gros, oui, c'est ça, tout à fait.
C'est quelque chose qui est en évolution aussi, ça, non ?
Alors, l'idée, si vous voulez, aujourd'hui, la réflexion, c'est de dire, avec le bibliobus, on emporte à peu près entre 3 000 et 4 000 livres. Donc, ça veut dire que ce qu'on va offrir aux personnes qui souhaitent prendre des livres, c'est effectivement cette partie-là. L'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir utiliser ce qu'on appelle un catalogue collectif, y compris, c'est-à-dire le catalogue de la bibliothèque départementale, mais également le catalogue des autres bibliothèques, d'en faire un catalogue unique, et là, on change complètement de dimension. C'est-à-dire qu'en allant sur Internet, on n'a plus accès à 3 ou 4 000 livres, mais on a accès à 220 000 livres. Donc, c'est un choix beaucoup plus intéressant. Et l'idée aussi, comme je vous l'ai dit, le biobus, il passe à peu près 4 fois par an. Ça veut dire qu'en gros, tous les 2 mois et demi, 3 mois, il passe. Mais si vous avez envie d'un livre, eh bien, il faudra attendre lorsqu'il est passé à peu près 3 mois. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place des navettes qui répondent de manière plus rapide à la demande, c'est-à-dire avec à ce moment-là les réservations qui se feraient par Internet, que nous pourrions mettre en place, c'est-à-dire choisir les livres demandés et pouvoir les livrer en gros la semaine d'après, ce qui laisse un délai d'attente beaucoup moins long et qui est quand même plus intéressant quand on attend un livre.
Au niveau de l'inscription, pardon, ça se passe comment au niveau de l'inscription ? Il faut s'inscrire directement ?
Alors, il faut s'inscrire dans les bibliothèques municipales et intercommunales parce que le réseau, c'est effectivement toutes ces bibliothèques. Et l'idée pour nous, c'est bien sûr d'être en gros ceux qui desservent ces bibliothèques.
Si vous voulez, nous, on ne reçoit plus de particuliers à la médiathèque départementale. Nous, on travaille directement avec les bibliothécaires du réseau. Il n'y a plus de particuliers qui peuvent venir donc se servir dans nos magasins. Pour les inscriptions, c'est uniquement les bibliothèques du réseau, les écoles qui ne sont pas achalandées par un service de lecture publique, les crèches et les maisons de retraite, de manière identique.
Et combien y a-t-il de bibliothèques en Lozère ?
Alors, approximativement, on va dire 66. Voilà. Quand je dis 66, bien sûr, je ne compte pas les écoles, puisque les écoles, on en dessert quand même 62, ainsi de suite. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 66 bibliothèques. Alors, soyons clairs, les bibliothèques, il y a ce qu'on appelle les bibliothèques de niveau 1, 2 et 3, c'est-à-dire là où il y a à la fois des acquisitions et donc des montants par habitant qui permettent d'acheter les documents, là où il y a une surface suffisante. C'est 0,07 mètres carrés par habitant, pour vous donner une idée. Ensuite, il y a bien sûr les heures d'ouverture. Et puis après, il y a le professionnalisme, c'est-à-dire des personnes compétentes qui sont formées par la médiathèque départementale, soit par l'Association des bibliothécaires de France, soit qui ont fait un cursus universitaire leur permettant de travailler sur tout ce qui est bibliothèque. Donc voilà. Et puis à côté de ça, on a des petits dépôts qui des fois peuvent se trouver dans un office de tourisme, dans une mairie, mais où le nombre de documents est particulièrement limité.
Vous parliez d'activités aussi de formation, donc vous en parliez à l'instant. C'est un programme de formation qui est donc à destination plutôt des bibliothécaires, c'est ça, qui est proposé tout au long de l'année.
Parmi les missions d'une médiathèque départementale, il y a le volet formation. Donc chaque médiathèque départementale en France donc propose un catalogue de formation à l'année, des formations continues qui abordent des sujets professionnels, allant des publics, en passant par les collections, l'animation, le numérique, toutes les évolutions qui ont trait à notre métier. Donc ça, c'est un catalogue annuel, donc qui est proposé aux bénévoles et aux professionnels. Mais on a également donc une autre casquette, on est formateur occasionnel, c'est-à-dire qu'on a un référentiel national pour former les bibliothécaires professionnels et nouvellement recrutés à la gestion d'une petite bibliothèque. Donc normalement, c'est 6 jours de formation pour sensibiliser les gens à ce que c'est qu'une bibliothèque, qu'est-ce qu'on attend comme service, qu'est-ce que c'est que l'animation en bibliothèque, qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque déjà. Parce que la notion évolue, on est confronté actuellement à une grosse évolution et mutation dans notre corps de métier. Donc on sensibilise les gens à de nouveaux modèles de bibliothèque et de services innovants aussi.
Oui, d'ailleurs, en suivant votre page Facebook sur Facebook, on retrouve justement toute cette veille sur l'évolution des bibliothèques. C'est particulièrement intéressant en tant que purement, totalement extérieur, de voir cette évolution vraiment du concept. On parle de tiers-lieux, on parle je trouve, vous avez un travail de veille et d'identification qui est assez intéressant sur Facebook.
Je vous remercie. ça fait partie de notre métier, faire de la veille documentaire, d'informer aussi. Donc c'est vrai que Facebook, c'est quand même un bon outil, ça nous permet de véhiculer des informations qui nous semblent essentielles, et notamment sur ce sujet-là qui est quand même au centre de nos préoccupations. Donc, et une de nos motivations, c'est de mettre le public au centre de nos pratiques et de développer en fait tout ce qu'on appelle actuellement, c'est des termes un peu que tout le monde emploie, mais de co-construction, de co-participation, donc faire avec les gens, voilà, pour qu'ils aient une autre image de la bibliothèque et qu'ils la désacralisent un peu.
On mettra bien sûr tous les liens sur notre propre page Facebook de l'émission.
Alors, quand justement vous dites de placer les gens au cœur, j'imagine que les animations que vous proposez aussi en tant que médiathèque départementale, elles sont là aussi pour justement permettre d'avoir des actions envers les publics qui sont accueillis dans les bibliothèques et les médiathèques sur tout le territoire du département. Je ne sais pas qui veut...
Oui, peut-être,
ou ceux qui ne le sont pas et qui pourraient l'être.
Oui. Peut-être replacer un petit peu, effectivement, on l'a dit en début, l'animation prend une place de plus en plus importante, c'est-à-dire pouvoir porter la culture sur les territoires. Et donc, grâce au contrat territoire lecture qui a été conclu avec l'État fin décembre 2015, aujourd'hui, nous avons un concours à parité avec l'État qui nous permet de conforter et de mettre en place de nouvelles actions. Alors très rapidement, un peu tous les publics, d'abord le public jeune, très jeune, tout petit, 0-3 ans, avec une opération qui s'appelle Première Page, qui nous permet d'amener la lecture au plus proche de ces enfants, que ce soit dans les crèches ou les bibliothèques, en liaison bien sûr avec les parents et puis tous ceux qui travaillent avec la petite enfance. Donc ça, c'est une opération qui a particulièrement bien marché en 2016. On attend maintenant les résultats de 2017. Mais à titre d'exemple, sachez qu'il naît à peu près 600 enfants en Lozère par an. Si on prend 0 à 3 ans, on multiplie par 3, ça fait 1800. Nous en avons touché 1087. C'est-à-dire, c'est quand même largement plus de la moitié, pratiquement les deux tiers, c'est une bonne chose. Et on pense qu'à force de continuer, on va tous les avoir touchés d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une première opération. Deuxième opération que nous avons mis en place récemment, c'est le cycle de conférences. Donc l'idée,
Il se termine là,
et qui se déroule pour nous au mois d'octobre. L'idée, c'est effectivement de pouvoir accueillir soit des écrivains, des auteurs dans des domaines qui peuvent être de société, scientifiques, et avoir des conférences sur différents territoires, sur ces thèmes. Et souvent, ces conférences sont associées à des journées avec des ateliers, des parcours, voilà, qui permettent de donner une autre image de la bibliothèque, un petit peu une bibliothèque hors les murs. Autre élément que l'on met en place aussi, c'est le Printemps des Poètes. C'est une opération nationale qui est calée au mois de mars, sur laquelle nous avons de bons retours, puisque nous avons, chaque année, il y a un thème retenu. L'année dernière, c'était l'Afrique. Et donc, nous avons des lectures qui sont souvent des lectures musicales. Et puis, une opération, bien sûr, qui va débuter. Ça va être le mois du film documentaire. Ça fait maintenant plusieurs années que nous le faisons. Ça se passe au mois de novembre. C'est une sélection de milliers de films qui se déroulent à l'opération à la fois nationale et internationale et à laquelle nous participons.
Et on en parlera dans la deuxième partie de cette émission, après la première chronique. Mais Caroline, tu avais une question.
Oui, parce que malgré tout, quand on parle bibliothèque ou médiathèque, on pense en premier aux livres, même si maintenant, ce n'est pas vraiment la seule chose. Et comment se porte la lecture en Lozère?
Alors, si vous voulez, aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même un regain pour la lecture. Même si on a bien vu qu'à un moment... il y avait une tendance à passer sur d'autres modes de lecture que le livre. J'ai quelques exemples en tête. Je vais en citer un qui m'a beaucoup marqué. C'est Florac. Florac, donc nouvelle construction de bibliothèque, aménagement nouveau, recrutement de personnel. Voilà une collectivité où il y avait 200 adhérents. Et puis, donc avec ces nouveaux équipements, ce nouveau personnel, il y a un dynamisme qui s'est mis en place. Et aujourd'hui, en l'espace de 2-3 ans, aujourd'hui, ils ont 850 adhérents. Voilà. C'est la preuve que lorsque l'on met en place des équipements du personnel compétent et que l'on fait en sorte d'avoir des animations, eh bien, il y a un retour et donc les lecteurs y vont. Vous savez, je dis souvent, une bibliothèque, c'est exactement comme un magasin. Si vous allez dans le magasin et que vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous n'y revenez pas. Eh bien, une bibliothèque, vous allez chercher... vous en rentrez dedans, vous cherchez un livre sur tel thème, vous ne le trouvez pas, vous n'y reviendrez pas. Voilà. Donc il faut être à la fois, je dirais, très diversifié et être en mesure d'offrir un peu tous les services. Et si on ne peut pas l'offrir, savoir où c'est qu'on peut le trouver pour conseiller le lecteur.
Mais très bien. Effectivement, c'est des enjeux, plein d'enjeux d'avenir, de renouvellement de collections, d'évolution de ces structures de médiathèques et de bibliothèques. Donc voilà, plein de projets pour cette médiathèque départementale de Lozère, et on reviendra donc bien sûr sur ce mois du film documentaire tout de suite après, et tout de suite après Eric notamment, qui va nous parler de ce temps qui va trop vite.
Loz Actuali.
Pendant des années, j'ai été pressé. Pressé d'arriver. Mais arriver où, je ne sais plus, mais je me souviens que j'étais pressé. Je courais. Je courais pour rattraper mes trains, par exemple. Pour arriver à l'heure, je courais tout court. Mais après quoi, comme un besoin de croquer la vie à pleines dents et ne pas en rater une miette. De peur que demain soit trop tard. Comme un besoin d'aller vite pour avoir le temps de tout faire. Mais faire quoi? Pourquoi? Et aujourd'hui encore, il arrive que ce rythme trop rapide représente notre quotidien. Et on se plaint régulièrement. Qu'on est débordé, les journées passent trop vite, qu'on n'arrive pas à tout faire, avec l'impression d'avoir encore couru toute la journée et d'être essoufflé. Et malheureusement, cette course contre la montre nous touche dans tous les domaines de notre vie. Famille, travail, activités sportives, sociales, sexuelles, et s'accompagne de stress, d'impatience, d'énervement. La technologie accentue ce phénomène. Il n'y a pas si longtemps, les personnes se donnaient des nouvelles par lettre, par courrier, et on attendait la réponse. Aujourd'hui, le courriel est presque dépassé par les textos. Et si je n'ai pas de réponse dans les minutes qui suivent, c'est une catastrophe. Bon, on vit de plus en plus dans l'instantané. La mondialisation a réduit les distances. Le temps se raccourcit. On attend de nous une réactivité immédiate. Je fais ainsi partie de cette masse de quadras, ou presque quadras pour moi, dont la vie ressemble à un tambour de machine à laver en mode essorage. Vous savez, ce mode... qui vous emmène toujours plus vite, à être toujours plus informé, mais toujours dépassé, terrassé par le flot des nouvelles toujours plus sombres, qu'on gobe sans recul, sans plus réfléchir, et qui nous plonge dans un océan de doutes. Mais voilà que tout va changer, parce qu'à présent, les amis, je vais adopter cette nouvelle tendance qui est le slow life. Ralentir, prendre le temps, se déconnecter, respirer, être calme. Tout moi. Se reconnecter, mais à la nature. Alors, j'ai trouvé le cliquet pour ouvrir la porte de la machine infernale et descendre de temps en temps du tourniquet. Alors attention, quand on descend du tourniquet, on est un peu étourdi. On se relève, attendant un instant que l'équilibre revienne. Et puis on ouvre les yeux, on pose le regard sur des objets, des paysages, en les observant vraiment, et non pas en arrière-plan d'un selfie. Alors mon slowdown, c'est la porte qui mène vers cet autre monde. Toujours au ralenti, c'est un espace de liberté, un encouragement. Alors, autant se l'avouer tout de suite, pour ce qui est de la déconnexion, je ne suis pas encore prêt à m'en passer complètement. Mais l'idée de ne plus avoir de connexion en permanence me séduit de plus en plus. Se retirer des ondes, devenir un ermite des temps modernes de temps en temps et ne plus vivre à la recherche du Wi-Fi. Du temps devant moi, rien que pour moi et pour les miens. Ce n'est pas une question d'individualisme, mais c'est pour prendre le temps de bien faire les choses, de les apprécier. Ne pas passer à côté des bons moments parce que vous savez, même en courant très vite, on ne le rattrape jamais le temps perdu. Mais il faut faire attention, parce qu'on n'est plus habitué, c'est comme le vertige. Le vide peut être effrayant parfois. Mais c'est un délice aussi, celui de lire des romans par exemple, mais pas en diagonale pour essayer d'en consommer le plus possible. Non, lire vraiment, parce qu'un roman, c'est l'ennemi de la vitesse. La lecture doit être lente pour tomber sous le charme d'une petite phrase que l'on note pour s'en souvenir plus tard. Lire des revues aussi, comme 21 ou 6 mois, revue de culture générale, une slow press, dont on a déjà parlé à ce micro, qui ne publie que tous les trimestres ou les semestres, se donnant le temps de produire des articles sur des sujets approfondis. J'ai même lu récemment qu'il existait des villes cita-slow. Alors, pour vraiment adopter le slow way of life, il existe même une slow watch. C'est une montre qui n'a qu'une seule aiguille et qui laisse défiler le temps. C'est un rappel subtil que le temps est l'une des choses les plus précieuses que nous avons et que nous devons profiter de tout ce que nous faisons et cesser de courir après les minutes. Alors, slow ne décrit pas une vitesse, c'est un état d'esprit. C'est comme pour les enfants, on tente de les occuper tout le temps. La télé, les jeux, le sport, les devoirs, on ne leur laisse plus le temps de l'ennui, qui est souvent celui de l'imaginaire. L'imaginaire des grandes histoires qu'on se crée et qui nous crée. Concentrez votre temps sur ce que vous voulez faire vraiment. Bien sûr, je suis conscient que pour la plupart, nous vivons dans un monde où il n'est pas toujours possible de faire toutes les choses que l'on aime. Mais la mentalité slow est là pour vous aider à profiter, quoi que vous fassiez. Je suis sûr que cela fait résonner en vous une petite envie de ralentir. Comme le dit cette maxime, dans tout ce que tu fais, hâte-toi lentement. Et puis souvent, si on ne choisit pas soi-même de prendre du temps, c'est alors la vie qui amène à ralentir, grâce ou à cause des chutes. Je crois ainsi que les fleurs qui poussent trop vite se fanent aussi vite. Que le temps qui passe permet aux petites graines de germer, pousser. Et tranquillement, en les arrosant régulièrement, un jour, elles donnent de beaux fruits, de belles fleurs, de beaux arbres. Alors maintenant, j'arrive parfois en retard. Je cours autrement. Je marche même. J'observe. Je lis. Mais peut-être encore une fois, trop vite. Trop vite. Trop lent. C'est comme une quête pour trouver mon rythme. La cadence qui est la mienne. Et vous, est-ce que vous voulez trouver votre rythme ?
C'est un poète, Stéric.
Ah ouais, de plus en plus. Hein. On fera un florilège à la fin de l'année. Ah, bonne question, effectivement. Hein. Cette course après le temps. Alors, je ne sais pas, nos invités, est-ce que vous êtes dans la course après le temps ? Est-ce que vous avez envie aussi de vous retirer des ondes ? Alors, se retirer des ondes, c'est aussi s'éloigner de sa radio. Hein. Donc, moi, je ne cautionne pas. Hein,
c'est prendre le temps d'écouter de bonnes émissions aussi.
Ah, ça, c'est mieux déjà. Je ne sais pas. Une petite réaction à la chronique ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein.
Ouais, moi, je pense que. Ce constat, je pense que. Enfin, je le partage. Après, c'est la bonne cadence à trouver. Donc, il y a des moments où on a le bon feeling et puis il y a des moments où on se laisse à nouveau dépasser et prendre. Voilà.
Oui, ben, moi, je pense qu'il y a une chose qui règle tout cela, c'est chaque jour qui passe. Parce que le poids des mois, des ans, fait qu'effectivement, on a une réflexion un peu différente. Et même s'il y a des moments, effectivement, où il faut, je dirais, avancer à un certain rythme, je pense qu'il faut avoir aussi des temps de respiration et du temps pour méditer. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup d'ouvrages qui sortent sur la méditation et qui montrent que la méditation peut être aussi un atout pour aller beaucoup mieux dans sa vie. Voilà, donc je prends maintenant le temps de méditer.
Voilà, on a un poète et un philosophe dans cette émission.
Ouais, c'est...
du haut niveau aujourd'hui.
Ouais, du très haut niveau. Merci pour ces témoignages. Merci Eric pour ta chronique. Ça va être le moment de la première coupure musicale et donc le choix de nos invités. Et je vais me tourner, je ne sais pas, vers Louis Galthié peut-être pour la première. Dites-nous qui vous nous proposez.
Alors, ça va pas en surprendre certains et certaines. Je vais vous demander plutôt Pierre Perret et Lily. J'ai eu l'occasion de le côtoyer récemment et je trouve que c'est quelqu'un qui véhicule des valeurs d'humanisme, qui par les temps qui courent, sont d'actualité. Et je dirais que Lily, c'est encore d'actualité.
Voilà, et aussi un grand représentant, un grand défenseur de la chanson française.
De la langue française.
Et voilà,
parce qu'on ne sait pas, mais il fait partie notamment de plusieurs comités, et notamment du comité sur la simplification du langage administratif.
Et ben voilà. On l'écoute donc, Pierre Perret, Lily.
On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily, elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Loz Actuali.
Deuxième partie de notre émission, toujours avec Laetitia Villon et Louis Galthié de la médiathèque départementale de Lozère. Et on va rentrer un petit peu plus dans cette actualité de ce mois de novembre qui commence avec le mois du film documentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le principe de ce mois ?
Alors, le mois du film documentaire, donc, c'est une manifestation qui existe depuis 18 ans maintenant. Donc, c'est une manifestation nationale et internationale qui a pour objectif de valoriser le cinéma documentaire et le faire reconnaître comme un cinéma à part entière. Donc nous, à la médiathèque départementale, on est inscrit dans cette manifestation depuis à peu près 5-6 ans, je crois. Avec, on a utilisé des formes un peu diverses. Et depuis 2 ans, en fait, on travaille avec un historien du cinéma italien qui s'appelle Federico Rossin. C'est un spécialiste donc, du cinéma documentaire et d'animation. On l'a sollicité sur des formations, notamment sur des formations sur la programmation. Comment programmer ?
Pardon, comment s'est faite la rencontre avec
Comment s'est faite la rencontre ? Alors, on me la pose souvent et à chaque fois, je me dis mince. On était en partenariat avec Documentaire sur grand écran. Donc un partenariat avec une association nationale qui diffuse du cinéma documentaire. Et donc, on était souvent amenés à travailler avec eux dans la recherche de formateurs. Et elle nous a présenté Federico, qui est aussi programmateur dans des festivals internationaux. Et donc, la première fois qu'on l'a fait intervenir, c'était sur les images d'archives dans le cinéma documentaire. Et à la suite de cette rencontre, on s'est dit, mais il faudrait qu'il nous forme à programmer. Donc on l'a fait venir 2 jours, et l'objectif c'était de former un comité de bibliothécaires programmateurs. Et on est parti avec lui l'année dernière sur la thématique de l'alimentation. Donc on a construit nos séances avec lui, il nous a proposé un répertoire de films. Et vu l'ampleur... du domaine, on lui a délégué la programmation parce que les bibliothécaires se sentaient pas de la prendre en charge. Donc il a créé des séances autour de l'alimentation et ensuite on s'est réunis pour voir si on adhérait à ces propositions, si on les validait pas, pourquoi et quelles propositions on pouvait faire à la place. Ce comité, c'est à peu près 10 bibliothécaires. Elles ont choisi des séances. Il y a eu des débats animés autour de ce programme-là. Et donc cette année, on a décidé de travailler sur le sport, filmer le sport. Et Federico nous a fait aussi des propositions, très très diverses. Chaque séance est construite en lien avec les autres séances. Chaque séance comprend des films d'époque, de réalisateurs différents. Et chaque film tente de répondre à sa manière à la problématique qui est proposée sur la séance. On s'est rencontrés, on a pareil visionné et adoubé ou pas les propositions de Federico. Et c'est ce qui donne cette programmation. Donc il y a 10 séances à Villefort, à Barjac, à Florac, au Collet, sur Langogne, à Riotor, au Pont de Montvert, Saint-Chély. Et Saint-Chély. Donc il y a une programmation. Et Marvejol, pardon. Ouais. Et donc il y a une programmation jeune public et une programmation pour les adultes. Donc on a 9 séances.
Et comment se passent les séances justement ? C'est juste le film qui est diffusé ou il y a une animation avec ?
Alors, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que quand la médiathèque départementale propose. Des animations à son réseau. L'objectif, c'est de servir d'impulsion, en fait. Autour des propositions de la BDP, on imagine aussi toute une série d'actions en amont ou après, ou qui viennent ponctuer, en fait, la proposition de la médiathèque départementale.
Ah, votre série de conférences qui s'achève était sur cette thématique du sport déjà, non ?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros... Le cycle de conférences prend un thème et le film documentaire vient, je dirais, compléter, étoffer ce thème. Donc, ouais. Il y a effectivement une synergie entre les deux.
C'est quasiment un trimestre sur une thématique, du coup.
Oui, pratiquement, oui, tout à fait.
Alors, donc, pour vraiment répondre à... Prenons un exemple, peut-être, pour répondre complètement à la question d'Éric. Donc, on va venir voir un film et ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? C'est des présentations de livres autour du thème de...
Oui, ça, c'est l'animation, on va dire, basique avec une table de présentation, la présentation du film, pourquoi on l'a choisi, la diffusion du film et après l'animation d'un échange autour de ce film. Pourquoi les bibliothécaires l'ont choisi, pourquoi elles l'ont aimé. Et on invite le public aussi à faire des retours sur ce qu'ils ont vu.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que auparavant, la programmation, avant qu'on rencontre Federico, c'était un peu, je dirais, un coup de cœur. Chaque bibliothécaire avait un coup de cœur. Là, on essaie de faire quelque chose de plus homogène et qui se réponde, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi un thème. En plus, les connaissances de Federico font que sur une séance, on peut avoir deux ou trois films. Et ça nous donne donc une vue plus large du sujet traité.
Juste un exemple. Par exemple, sur Barjac, le 10 novembre, il va y avoir un programme de quatre films. Cette séance s'appelle « Tous ensemble ». Donc, filmer le sport, tous ensemble. Donc, c'est la problématique de la solidarité, de l'entraide et de ce que ça révèle aussi chez nous, en tant que citoyens. Donc, il y a un film de Louis Malle sur le cyclisme, « Vive le Tour ». Donc là, si vous voulez voir un film sur le cyclisme, comme vous ne l'avez jamais vu, venez le voir, parce que c'est un film extraordinaire. Il ne dure que 18 minutes. Un film de Jacques Tati aussi. On connaît Jacques Tati plus comme un auteur de films de fiction. Et là, il a filmé donc, tous les avants d'un match de foot à Bastia, en 78. Ensuite, il y a le film de Jacques Tati dure 26 minutes. Pardon. Ensuite, un film canadien sur le hockey sur glace, 30 minutes également, sur l'esprit d'équipe. Et comme un seul homme, alors là, on sera dans les vestiaires de rugbyman, et ça dure que 15 minutes. Donc, un programme, grosso modo, qui dure une heure et qui date d'époques différentes, 2001, 64, 62, avec des techniques documentaires différentes. Et un point de vue cinématographique aussi, et un point de vue d'auteur de cinéma.
Il y a une diversité justement dans le choix des documentaires entre des documentaires plus anciens, là on le disait, de documentaires patrimoniaux finalement, à la vue d'aujourd'hui sur l'histoire récente, certes, mais voilà, un documentaire sur 62, on sait que y a des, ça fait quand même quelques années de retour. Et puis on voit des programmations beaucoup plus récentes avec des productions de 2016. C'est un choix justement aussi d'avoir cette diversité à la fois de choses très, plus anciennes et de choses récentes.
Oui, parce que bon, par exemple, quand on prend le film de Louis Malle qui date de 62 sur le cyclisme, de visionner ce film-là, ça nous permet de nous mettre à distance de ce qu'on vit et de mieux analyser l'évolution de ce sport-là dans la société actuelle. En fait, ça crée un décalage qui est propice aussi à la discussion, parce que ça nous renvoie à ce qu'on vit à l'heure actuelle, et on peut le comparer facilement à la manière dont on vivait le sport dans les années 60. Voilà.
Et vous avez choisi que des films francophones ou c'est plus international ?
Il n'y a pas que des films francophones. Non, c'est international, parce que on essaie de montrer des points de vue d'auteurs différents.
Ben notamment à Villefort. Le 16 novembre, La grande extase du sculpteur sur bois, ouais. Steiner. Le titre est ensuite écrit en allemand, donc je ne me risquerai pas la prononciation. Mais c'est un film allemand de 1973. Donc je pense qu'effectivement...
Un film allemand, il y a un film canadien.
Du grosse extase, Guillaume.
Non, ça, c'est pas beau, Caroline.
Film suédois aussi.
C'est pas beau. C'est pas beau.
Mais c'est ça.
Non, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas. Alors peut-être, je vois aussi qu'il y a une formation qui est prévue justement pour continuer un peu l'exercice de formation qui avait été un peu au point de départ de tout ça.
Oui,
c'est ça.
Alors là, il nous donne des techniques d'analyse en fait du cinéma. Il nous montre toute la diversité en fait qu'on trouve dans le cinéma documentaire. Donc les films documentaires d'essai, les films de propagande. Donc on enrichit sa culture cinématographique documentaire qu'on n'a pas forcément, puisqu'en bibliothèque, on est amené à traiter plein de sujets différents. On n'est pas des spécialistes d'un domaine. Et grâce à ces formations-là, ça nous permet de développer notre culture cinématographique.
Alors on va
d'arriver à analyser en fait aussi.
Bien sûr.
D'avoir du langage.
Alors on va faire un peu le tour des différentes dates. Ça commence le jeudi 9 novembre par une séance tout public à la salle de spectacle de Villefort. avec une carte blanche, donc justement, à votre programmateur. On ne peut rien savoir. Hein,
non, c'est... je ne sais pas ce qu'il va proposer. Voilà, donc ça sera la surprise. Et venez, parce que ça vaut le coup de le rencontrer, de discuter avec lui, d'échanger.
Il sera là à chaque séance ?
Non. Voilà. Non. Il sera là essentiellement jeudi. D'accord. Jeudi 9.
Voilà, donc ensuite, toujours à Villefort, il y a une séance jeune public le 16 novembre qui est intitulée « Aux limites », avec un film trilogie pour un homme seul.
De Nicolas Philibert, qui est quand même un documentariste un peu grand public, puisqu'on le connaît pour son travail sur l'école, notamment.
Oui. Voilà, donc séance jeune public à destination des collégiens, donc ça sera le jeudi à 14h. Et le jeudi aussi, toujours, c'est la même séance,
oui.
La grande extase du sculpteur sur bois Steiner. Mm-hmm. Donc voilà pour...
Toujours pas en allemand, là, c'est pour Guillaume.
Voilà, toujours pas.
Les sports extrêmes, et puis qu'est-ce qui pousse ces sportifs-là à se dépasser, en fait.
Voilà, donc ça, c'était la proposition sur Villefort. Pour Barjac, donc on l'a détaillé, on l'a évoqué tout à l'heure, ça sera donc le 10 novembre à la salle polyvalente pour une séance tout public et autour de cette notion de collectif dans le sport, hein, avec une séance qui s'intitule « Tous ensemble ». Voilà. Ensuite, on part à Saint-Chély-d'Apcher avec une séance tout public le vendredi 17 novembre à 18h30 autour du foot, c'est ça ?
Exact, avec une drôle de partie avec le père du documentaire, du cinéma documentaire, on va dire français, Jean Rouche, Foot Girafe. Donc, c'est un court-métrage un peu particulier, plein d'humour. Voilà, qui peut déranger peut-être certaines personnes, parce que on assiste en fait à un match de foot entre une voiture et des girafes.
D'accord.
Mais il faut connaître le contexte, donc
faut
on sera là pour voilà, il faut venir parce qu'il faut parler.
Le 17 novembre à 18h30
au petit théâtre. Et donc il y aura aussi un autre film sur le foot féminin.
C'est ça, donc avec une problématique d'engagement féministe, de reconnaissance de la femme, voilà, à travers le sport. Mais c'est un film beaucoup plus large.
Voilà, et ce ne sera pas loin de la journée autour du droit des femmes auquel nous serons associés dans notre prochaine émission avec le CIDFF. On poursuit donc toujours à Saint-Chély. Il y aura aussi une séance jeune public, même deux séances jeune public. Donc avec un film qui s'appelle « Graines de champion », ce sera le vendredi 17 matin, et le sport dans tous ses états le vendredi après-midi. Alors, j'imagine que pour les séances scolaires, c'est réservé aux classes et aux écoles qui ont pris contact avec vous.
Surtout avec les bibliothèques, avec les bibliothèques concernées. Oui.
Ensuite, on part au Collet de Dès pour une séance tout public, un grand spectacle.
Oui, donc avec un film documentaire de Frank Simon et Roman Polanski, que tout le monde connaît, un film sur la course automobile, le sport automobile. Et c'est un film très, très étonnant, où l'on découvre le rapport qu'un sportif peut entretenir avec son outil et tous les à côté de la course automobile.
Donc voilà, ça sera le 18 novembre à 20h à la bibliothèque du Collet d'Aise. Au Collet d'Aise, il y a aussi deux séances jeunes publiques, avec le sport dans tous ses états et Graines de champion, qu'on a déjà vu à Saint-Chély. Hein, c'est les deux mêmes films qui sont reprogrammés. À Rioter de Randon, donc à l'amphithéâtre de la Maison de Pays, le mardi 21 novembre à 20h, une comédie humaine.
Oui, avec un film de William Klein, The French. Donc, c'est sur les internationaux de France de tennis à Roland-Garros.
On part maintenant à Langogne, au Talier, donc pour le vendredi 24 novembre à 18h30 à la filature des Calquières, avec une séance tout public qui s'appelle « Aux limites ». Et on retrouve la programmation qu'on avait vue tout à l'heure sur Villefort. Voilà. On continue avec le Pont de Montvert et Miroir de la Société avec Boxing Gym
Oui, et là c'est pareil, c'est un grand documentariste donc américain qui s'appelle Frédéric Wiseman, qui a d'ailleurs sorti l'année dernière un documentaire sur la bibliothèque publique de New York et de tout le travail formidable qu'ils font avec les enfants. Et là, on est en plein troisième lieu, en fait, bibliothèque troisième lieu. Voilà, c'était juste.
Voilà, et donc ça sera le 25 novembre à 20h à la salle polyvalente du Pont de Montvert. Et on termine avec Florac et Marvejol. Et d'abord Marvejol, donc le sport, c'est de la politique. Une séance tout public en partenariat avec le Ciné-Club de Marvejol le 28 novembre, à la salle du conseil municipal de Marvejol et avec le film Red Army.
Oui, donc c'est un film sur l'équipe de hockey de l'Union soviétique. C'est un film éminemment politique puisque... un des joueurs a été contacté par des hommes politiques pour espionner. Donc voilà, que va-t-il se passer? Va-t-il résister à ces injonctions?
Et donc ça, le mois se terminera le 30 novembre à 19h à Florac, à la bibliothèque, en partenariat avec les amis de la bibliothèque, pour une séance tout public, Écrire le sport pour Roland Barthes et Hubert Aquin.
Oui, avec deux films, La Lutte de Michel Brault, Marcel Carrière, Claude Fournier et Claude Jutras, qui datent de 1961, et Le Sport et les Hommes, qui datent d'Hubert Aquin, qui datent de 1959. Donc c'est vraiment des films de réflexion générale sur les interactions entre le sport, la société, comment le sport nous traverse, comment il traverse nos sociétés, et le rôle qu'il joue.
Alors, on peut retrouver toutes les infos sur ce mois du film documentaire, je pense, sur le site de la médiathèque départementale, biblio.lozère.fr.
C'est ça, exactement.
Voilà, et il y a une petite plaquette qu'on doit retrouver dans toutes nos bibliothèques de proximité. C'est
tout
ça
à fait, et même d'autres choses, c'est-à-dire dans des mairies, les écoles, quelques commerces peut-être. Voilà.
Très bien, on reparlera un petit peu à la fin de cette émission de ce mois du film documentaire. Mais tout de suite, on va retrouver la deuxième chronique.
Ta chronique, Guillaume.
Ma chronique, c'est parti.
Loz Actuali.
Alors voici le temps de la chronique de Guillaume, c'est à toi.
Et voilà, et moi je voulais vous parler d'une des sorties qui a fait le buzz ces derniers jours, la sortie d'Astérix et la Transitalique, effectivement un nouvel album pour le petit Gaulois à moustache, 37e album d'Astérix qui arrive, et qui est le troisième après, par les repreneurs de la série, donc le dessinateur Didier Conrad et le scénariste Jean-Yves Ferry. Alors, un petit peu l'histoire de cette nouvelle épisode. Tout commence par un défi. Pour redorer son image de marque, le sénateur romain Lactus Bifidus, qui est en charge de la gestion des voies romaines et qui sont en très mauvais état, organise une grande course de chars à travers la péninsule pour montrer qu'elles sont magnifiques, que les voies romaines sont magnifiques. Alors, cette course est bien sûr ouverte à tous les peuples de l'Empire et c'est la Transitalique, voilà le nom de cette course. Bien entendu, c'est Astérix et Obélix qui vont participer à la course. Et ce qui est très particulier, c'est que c'est Obélix qui est le pilote, l'orige, comme on dit, le conducteur du char, et pas Astérix. On a l'habitude de voir Astérix dans le rôle du héros, et là, c'est bien Obélix qui joue ce rôle-là. Donc, c'est une petite particularité de ce nouvel album. Et voilà, donc ils vont participer à la course et devoir affronter le concurrent redoutable, le mystérieux champion coronavirus dont le visage est caché par un masque doré. Voilà, vous le reconnaissez bien au travers de ces noms de héros et de personnages, toujours un lien très très fort avec l'actualité. Ici on retrouve les influences à la fois dans cet Astérix et la Transitalique. On retrouve le scénario de Goscinny sur le Tour de Gaulle d'Astérix, croisé un petit peu avec celui d'Astérix aux Jeux Olympiques. Bon, voilà, on retrouve aussi la volonté du nouveau dessinateur de dessiner des chevaux, puisque c'est un spécialiste du dessin, notamment puisqu'il dessine aussi pour partie les aventures des Dalton, etc. Donc on a pas mal de chevaux. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de calembours, de références discrètes à l'actualité, comme c'était le cas par le passé. Et ce lien à l'actualité reste toujours présent. Voilà, et on retrouve cette logique aussi de toujours ces personnages au nom un peu pittoresque. Donc c'est un album plutôt nouveau, plutôt sympa, moi je trouve. Alors Libération a un regard un petit peu plus critique, notamment par la plume de Quentin Girard, qui regrette le fait qu'il n'y ait pas finalement de véritable enjeu à part taquiner les Romains finalement, voilà. Il n'y a pas un enjeu très très important comme ça pouvait l'être, enfin plus de la défense du village gaulois dans les précédents albums. Bon voilà, c'est quand même malgré tout quelque chose de plutôt sympathique qu'on aura plaisir à lire et à ressortir de sa bibliothèque de temps en temps, un moment l'été tranquillement. Voilà. Donc moi j'ai eu l'occasion de le lire ce week-end et j'en suis assez. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà.
Alors Héloïse, notre libraire préférée, a aussi un avis positif. Elle, comme toi, elle dit qu'on retrouve bien l'esprit de Goscinny et du Uderzo dans cet album. Si vous me permettez une petite anecdote, mon fils a découvert les Astérix avant-hier. Alors il a 6 ans. Alors j'aime pas lui lire des BD parce que je trouve ça compliqué. L'histoire du soir en BD, je trouve ça difficile pour moi en tant que maman. Mais là, il avait très envie, donc on a lu un peu les premières pages. Alors, c'est compliqué, hein, Baba Orum, machin truc, là, tous les pays. Et puis, il y a quand même beaucoup de jeux de mots, de choses qui sont, pour un petit garçon de 6 ans, un peu compliquées. Il avait du mal à comprendre aussi cette histoire d'Obélix qui était tombé dedans quand il était petit. Et puis, hier soir, il y a eu le film à la télé, une rediffusion. Et alors là, tout s'est éclairé. Alors, c'est les vacances, il s'est couché un peu tard, mais je crois qu'il s'est vraiment, vraiment régalé. Donc, voilà. Et j'ai promis que j'irai acheter, du coup, le nouvel album.
Est-ce que on retrouve des Astérix dans les collections de la médiathèque départementale ?
Oui, bien sûr, on a un fonds BD jeunesse et un fonds BD adulte. Et donc, c'est notre collègue Marie-Jeanne Elmeras qui s'occupe des fonds BD. Donc, je pense qu'elle n'aura pas manqué ce rendez-vous, elle aura acheté pour le diffuser auprès de nos bibliothécaires.
Ben voilà, donc à retrouver évidemment. Voilà, c'était un petit peu le clin d'œil aussi au niveau de ce jour avec nos invités. Voilà, donc maintenant va venir le moment du portrait chinois.
Loz Actuali.
Alors, comme vous êtes deux invités, on va vous faire, pour ce portrait chinois, répondre à tour de rôle. Alors, évidemment, c'est de nous dire un peu, quand on vous dit un mot, un peu celui qui vous, auquel ça, à quoi ça vous fait penser. Par exemple, un animal, pour Laetitia, par exemple.
Alors, moi, je suis plus sur un insecte, là. J'aime bien les bousiers. Donc, voilà.
D'accord.
Parce que donc, ils forment leur petite boule et grâce à cette... Ils vont pondre, en fait, leurs œufs dans les boules, et... enfin, dans les petites boules qu'ils créent, pour que leurs larves puissent se nourrir de tous les éléments. Et comme je suis très maman poule, je me dis, ouais, le bousier, pourquoi pas.
Voilà, une belle petite histoire. C'est très sympa. Un loisir.
Un loisir.
Peut-être la lecture, mais la lecture, c'est peut-être professionnel maintenant.
C'est un peu les deux. Non, le loisir, c'est la marche et la pêche. Voilà, pêche plutôt au carnassier.
Un endroit préféré en Lozère ?
Les gorges du Chassezac. J'adore les gorges avec les cuves. C'est magnifique en été.
Un endroit préféré dans le monde ?
Alors, Maranello. Parce que Maranello, c'est la ville où s'est créé Ferrari. J'ai eu l'occasion d'y aller à maintes reprises et j'y trouve tout le temps une activité bouillonnante avec des choses qui me surprennent. C'est-à-dire que autant des fois on peut dire un bruit de moteur, c'est désagréable. Il faut penser que lorsque Ferrari faisait ses essais et qu'il n'y avait pas encore à l'époque toute l'insonorisation, les habitants de Maranello se levaient la nuit pour écouter. Et quand on dit à quelqu'un ouais, « ça fait du bruit », les Italiens vous disent « non, c'est une musique ». Et d'ailleurs, il y a des CD des différents bruits de moteur de Ferrari.
Alors, il faut savoir, parce que pour que nos auditeurs comprennent bien, je peux le dire.
Oui, bien sûr.
Louis Galthié est maire de Pierrefort dans le Cantal et Pierrefort est le village natal de Jean Todt. Oui. Voilà, donc d'où cette proximité avec le constructeur italien.
Une citation.
Alors, c'est pas vraiment une citation, c'est les livres, c'est bon pour les bébés, de Marie Bonafé.
Une drogue favorite?
Une
drogue favorite?
Chocolat, hélas.
Non, pas hélas.
Un plat préféré?
Poulet coco curry.
Ouais, super. Un verbe ou un mot?
Un mot. Je reviendrai sur la citation parce que il y en a une que j'aime beaucoup. C'est une citation d'Einstein. Et elle colle bien avec le travail que l'on fait. Einstein disait: la seule adresse dont vous avez vraiment besoin, c'est celle d'une bibliothèque.
Héros de fiction?
Bon, c'est dur. Un héros de fiction.
De fiction littéraire?
Ouais, là j'avais plus un héros de fiction. On va dire un héros ou une héroïne?
Ah, peu importe.
Peu importe, oui.
On va dire Daenerys Targaryen. Vous voyez ce que c'est? J'ai pas besoin de préciser. Non,
je pense qu'il y en a qui ont bien compris. Et pour terminer, un rêve, Louis Galthié?
Un rêve? Alors, il y en a plusieurs. Hein. Je dirais le rêve que l'on peut faire, c'est que l'on vit dans un monde un peu plus calme. Mais surtout aussi une chose, c'est qu'on s'aperçoit que mine de rien, il y a quand même beaucoup de textes qui arrivent et qui sont souvent source de censure. Je me dis, les chansons qui ont été écrites il y a 20, 30 ans, aujourd'hui, elles ne pourraient pas être écrites. Il y a des choses qui ont été faites. Voilà, ça m'inquiète un peu parce que c'est un peu la liberté quelque part qui peut être atteinte.
Un rêve de liberté. Et pour terminer, donc c'est le choix de la deuxième coupure musicale de cette émission. Et donc, c'est pour Laetitia.
Alors, moi, c'est un choix plutôt ancien. Donc, c'est un groupe que j'adore, qui s'appelle Dupin, avec la chanson Camina.
On écoute, c'est parti.
C'est le camin. Ras contrari, lo solitari, camminavi, senza sapere monte anna, senza sapere perché camminavi, avevassimo uno stau, clareggiavemo uno stau, e tutto il mondo lì agradava, morivo me, ma vide ero bastido, dopo ferrugia, senza espera, senza regaccia d'aria, l'avevi più de gain d'aria, senza regaccia, l'avevi più de gain, cammino che camminarás. Que caminarás, camino que caminarás, que caminarás, camino que caminarás, que caminarás, camino que caminarás, que caminarás. Los solitari vengan me trouba otro mundo, con lo la sidia mi prefunde. Li camoruto, caneta mi foda camina, caneta mi foda camina, tuyo descampo. Es para ti mundo veni, que se trati mai voli pa juga, voli pa trabaya, di muestro zino. Lo más sombra, que trati di mun ventres lureba, de vuestra esclavitud. Camino que caminarás, camino que caminarás, que camino que caminarás. Camino que caminarás, que camino que caminarás. Camino que caminarás, que camino que caminarás. L'onda un camin, e visi la ferruina, l'uliame che nous unisse. Rescontra la maire, embarazzato di una perla che li va mal, di una perla che tracce di su ventre. Es lo mal che nous fa, analo è sempre. Es lo mal che nous fa, analo è sempre. Toujours d'escap, jamais alla sa, sempre en devenir. Pare di una perla, morisque per la vita. Camino que caminarás, que caminarás. Camino que caminarás, que caminarás. Camino que caminarás, que caminarás. Camino que caminarás, que caminarás.
Loz Actuali.
Alors, la revue de presse, on commence avec toi, Eric, et donc un hashtag.
Donc, moi, en fait, c'est que je reviens plutôt à mon histoire de tout à l'heure. Il n'y a pas un hashtag en particulier. C'est que j'en reviens à mon histoire de temps qui passe et qu'on essaye de rattraper parce que j'ai oublié de parler d'un exemple majeur. C'est le matin quand vous êtes un peu en retard. Donc, vous levez les enfants, vous préparez le petit déjeuner, et là, catastrophe, si vous avez le malheur de faire tomber votre tartine beurrée de la table par inadvertance, il y a peu de chances que votre sol reste propre. La tartine semble atterrir toujours du mauvais côté. C'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. Loi empirique, surnommée à juste titre la loi de l'emmerdement maximum. Définition de son auteur, tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. Le coup de la tartine en est l'illustration parfaite. Pourquoi, me direz-vous ? Ce n'est ni le hasard, ni la présence du beurre qui sont responsables d'une telle injustice, mais bien l'univers qui est en cause. Ainsi, Robert Matthews, membre de la Royal Astronomical Society et de la Royal Statistical Society, a reçu le prix LG Nobel pour une étude sur le sujet. Voici ce qu'il dit au sujet de son étude. « Nous avons étudié la dynamique d'une tartine tombant d'une table pour s'écraser au sol. Selon l'opinion populaire, cela se termine toujours sur le côté beurré du toast. Cependant, du simple point de vue statistique, ce phénomène, paraissant soumis au hasard, devrait conduire à un partage 50-50 entre les deux éventualités. Or, nous démontrons ici que les tartines, sous l'emprise d'un grand nombre de facteurs, ont effectivement tendance à tomber sur leur côté beurré. En outre, nous démontrons in fine que ces résultats sont imputables aux valeurs des grandes constantes fondamentales de l'histoire de l'univers. Alors, lors de son expérience, il a démontré que même si la forme de la tartine et la manière dont elle quitte la table entrent en jeu, dans la plupart des cas, c'est la hauteur de la table qui est déterminante dans cet atterrissage raté. Alors, pour faire simple, je dirais que sauf si vous vivez au milieu de meubles géants, votre tartine est condamnée à tomber du côté beurré, car l'univers est ainsi fait.
Bien, ben, merci Eric pour cette revue de presse tout à fait particulière. On poursuit avec toi, Caroline, et un droit de suite.
Oui, droit de suite. Je vous avais parlé il y a quelques émissions du Festival d'art contemporain de Paris et de la censure par le musée du Louvre d'une œuvre qui devait être installée dans ses jardins. Une œuvre donc du néerlandais Joep van Lipsthout. Décidément, on a un peu du mal avec la langue étrangère aujourd'hui.
Le fameux domesticator.
Alors, j'ai découvert dans la semaine que ce domesticator avait finalement été récupéré par Beaubourg et placé sur son parvis. Plus de censure aux yeux, aux vues et aux sues de tout le monde. Et alors que je m'apprêtais à vous annoncer cette bonne nouvelle, j'ai découvert dans un article du Huffington Post.
Ah, décidément, t'as du mal. J'ai du mal aujourd'hui.
Voilà. Que le mardi 24 octobre, la SPA avait fait une demande explicite auprès du président de la République, du Premier ministre et du ministre de la ministre de la Culture du retrait pur et simple de cette œuvre. Alors je vous rappelle, hein, une œuvre monumentale en espèce de Lego rouge où un homme est en train de en position de levrette avec ce qu'on peut qualifier d'être un animal a priori. Voilà, l'artiste explique que cette œuvre, c'est la violation de la nature par l'homme. Mais la SPA, elle, dénonce les mauvais traitements infligés aux animaux et les peines encourues en France par la législation française. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'œuvre sera retirée. En tout cas, je sais qu'elle fait beaucoup de bruit. J'ai vu un reportage à la télévision où des mamies passaient devant Beaubourg. Alors, le Louvre s'était ému en disant qu'il y avait beaucoup de familles dans le jardin des Tuileries. Je pense que devant Beaubourg, il passe aussi tout un tas de gens très divers. Et j'ai vu un reportage avec des mamies qui, finalement, étaient très amusées par la chose, plus que offusquées. Donc voilà, j'espère que ça sera la réaction plutôt globale du public. Voilà. En tout cas, je voulais vous donner ce droit de suite. On y tient. On parlera dans la prochaine émission, puisqu'on enregistre et que c'est aujourd'hui que se jouent les choses à Bruxelles, on parlera du droit de suite sur le glyphosate dont je vous ai parlé la fois dernière et qui me tient à cœur.
Très bien. Alors, pour moi, cette revue de presse, c'est un article de Slate.fr. Alors, avec le grand débat, effectivement, amorcé tout à l'heure au moment du sommaire, chocolatine ou pain au chocolat, la science s'en mêle. Il y a des chercheurs, une équipe de chercheurs qui mène cette recherche d'un point de vue linguistique depuis près de 2 ans en cherchant à cartographier qui parle de pain au chocolat, qui parle de chocolatine.
On mettra la carte, bien sûr, sur
tout
notre
ça,
site.
Vous aurez bien sûr l'article.
Sur notre page Facebook.
Vous avez même la même analyse sur l'Est du Canada. Donc, ils sont vraiment, c'est vraiment allé très loin. Tout ça est parti évidemment de ce combat un peu régionaliste entre le Sud-Ouest et le reste de la
du
France,
monde.
il faut le dire. Mais également aussi de ces retentissements. Il y a eu quand même des lycéens de Montauban qui ont demandé à ce que le mot rentre dans le dictionnaire. Il y a eu une photo qui a été de maintes fois partagée sur les réseaux sociaux d'une chocolatine avec le petit panneau chocolatine au Japon, enfin voilà. Donc tout ça, c'est un grand débat, je crois, qui ne se réglera jamais, mais en tous les cas, c'est intéressant de lire cet article où il y a justement l'analyse un peu des chercheurs et d'essayer d'identifier comment quelque chose qu'on a tous au quotidien, finalement, on va prendre des noms différents aussi. Je trouve ça assez intéressant en termes de langue.
Alors, est-ce que le vrai débat dans l'actualité actuelle n'est pas de savoir si ce pain au chocolat ou cette chocolatine sera avec ou sans beurre?
Et oui, aussi, effectivement, avec cette fameuse pénurie. Il y a des pénuries de produits. Il y a la pénurie de cornichons aussi.
Ah bon?
Oui. Quand tu vas faire tes courses à Hyper U, tu as un panneau te disant qu'en raison de la sécheresse, il y a une pénurie de cornichons. Donc, voilà. On l'avait évoqué également concernant le chocolat, avec aussi des capacités de production. Qui n'était pas tout à fait, avec notamment l'arrivée des Chinois dans la consommation de cacao. Donc, plein de choses qui vont devoir. Des choses qui évoluent.
Qui vont nous coûter cher, du coup.
Sans doute, très, très, très certainement. Voilà, donc c'est la fin de cette émission Los Actualis sur 48FM. On vous rappelle les rediffusions le jeudi à 19h, le mardi à 12h30. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Et on vous rappelle évidemment ce mois du film documentaire pendant tout le mois de novembre. Sur le thème donc du sport organisé par la médiathèque départementale de Lozère, et vous retrouvez toutes les infos sur biblio.lozère.fr. Vous pouvez nous dire quelque chose pour inciter vraiment à venir à un moment clé, dites-nous.
Si vous avez envie d'être étonné, de découvrir des genres, des œuvres nouvelles, venez, vous ne regretterez pas. Il y a Caroline qui parlait de cette polémique. Je trouve ça dommage qu'on veuille censurer à chaque fois des œuvres. Notre rôle à nous, passeurs de culture, c'est justement d'interroger ces œuvres-là et de se questionner. Je trouve qu'une œuvre comme ça, elle a toute sa place.
Ben voilà. Et oui, non, non, mais oui, c'est fait aussi pour parler, susciter le débat, et c'est à ça que sert aussi l'art et la culture.
Et du coup, le mois du film documentaire aussi rentre dans l'interrogation qu'on a par rapport à la société, par rapport au sport, par rapport à...
Ben voilà, donc rendez-vous, ça commence, on l'a dit, le 9 novembre à Villefort, avec une carte blanche au programmateur un petit peu de ce mois, et ensuite de nombreuses dates, on l'a dit, à Barjac, Florac, Le Collet d'Aise, dans le Haut-Allier, à Marvejols, au Pont de Montvert, Réauteur de Randon, Saint-Chély-d'Apcher et Villefort. Voilà, donc soyez au rendez-vous de ce mois du film documentaire. À bientôt.
Los Actualis.